RCF. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Madame Dominique Leffel, directrice de l'ONAC, dans le cadre de nos émissions consacrées à l'histoire militaire du Cher et du Berry, avec Agora Défense. Bonjour Madame la directrice.
Bonjour Monsieur Duperrin.
Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission, car je sais par ailleurs que votre emploi du temps est chargé et dense. Alors ma première question, qu'est-ce que cachent les abréviations ONAC, on appelle couramment ONAC?
L'ONAC, c'est l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. C'est une très vieille institution puisqu'elle fête cette année son centenaire. Elle a été créée d'abord par un premier office en 1916 qui était l'Office des Mutilés, qui était chargé de rendre hommage et de reconnaître l'engagement et le sacrifice des milliers de soldats qui combattaient. Ensuite, il y a eu un autre office l'année d'après pour les pupilles de la nation. 10 ans après, l'Office du combattant qui était là pour prendre en charge les besoins des anciens combattants qui n'étaient ni blessés, ni mutilés, ni invalides. Ensuite, il y a eu une fusion en 1935 et pour finir en 1946 par la création de l'Office actuel.
L'ONAC a pour principale mission de s'occuper des anciens combattants et victimes de guerre. Madame Leffel, pouvez-vous me donner les conditions nécessaires pour intégrer ces catégories ?
L'ONAC a 3 missions. C'est reconnaître et réparer, accompagner et transmettre. Donc, dans le cadre de la première mission, donc ça s'adresse à des publics qui sont les anciens combattants et les victimes de guerre, qui sont les victimes des conflits du XXe siècle, évidemment Seconde Guerre mondiale, Indochine, Afrique du Nord, mais également les opérations extérieures. Il y a une deuxième grande catégorie qui sont les veuves de ressortissants qui doivent demander une carte. Ensuite, les victimes d'actes de terrorisme depuis 1991. Et enfin, les pupilles de la nation.
Donc, vous intégrez les victimes d'attentats?
Tout à fait.
Ah, d'accord.
Tout à fait.
Alors, justement, quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exercice de votre mission auprès de ces personnes?
Alors, la première difficulté, c'est de faire parvenir l'information. De l'information, il y en a beaucoup. On a les sites internet, les réseaux sociaux. La difficulté, c'est d'arriver à ce que cette information parvienne aux gens à qui elle est destinée. Je ne vous ai pas dit, mais nous avons à peu près 3 millions de ressortissants, parce que ce sont des ressortissants, sous une vingtaine de statuts différents. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes modalités de communication et on ne délivre pas les mêmes informations à tous ces publics. Ensuite, la difficulté, c'est d'arriver à toucher les ressortissants qui sont les plus isolés, les plus fragiles, les plus dépendants. C'est très très difficile, notamment je pense aux veuves et aux veuves des générations, par exemple d'AFN, où à cette génération-là, c'était l'homme qui faisait tourner la maison, oui. C'était l'homme qui travaillait, c'était l'homme qui faisait les papiers. Et quand par un grand malheur, cet homme disparaît, les veuves sont démunies. Elles ne savent pas forcément retrouver les papiers, elles ne savent pas s'ils étaient adhérents d'associations, elles mélangent les associations et l'Office national, etc. Bon. Cette catégorie de personnes qu'on appelle les plus fragiles, les plus démunies, constituent les priorités de l'action sociale qui ont été redéfinies l'année dernière par le conseil d'administration de l'ONAC. J'en profite pour rappeler que l'ONAC est un établissement public sous tutelle du ministère de la Défense et qui a une gestion paritaire, c'est-à-dire que les associations nationales siègent au conseil d'administration et donc participe aux décisions qui concernent la gestion et l'avenir de l'ONAC.
L'ONAC, c'est la solidarité, mais aussi la mémoire. Comment la transmettre aux futures générations? Quelle est votre action, vos joies, vos déceptions dans l'exercice de cette mission passionnante, mais très difficile, je suppose, Madame la directrice?
Écoutez, la mémoire, pour moi, c'est transmettre. Et je parle de travail de mémoire plus que de devoir de mémoire. Parce que travail, ça implique une idée de synergie et une idée d'implication. Et pas seulement quelque chose qu'on doit faire parce qu'on doit le faire. La transmission, c'est faire comprendre et faire partager aux jeunes générations les valeurs qui ont été défendues par nos anciens, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, et qui sont encore défendus par nos soldats dans le cadre des opérations extérieures. Je vais vous relater une anecdote que j'ai régulièrement quand j'interviens en classe. J'ai très souvent une petite fille d'une dizaine d'années, souvent, et qui me dit ce qu'elle entend à la maison. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien aller faire là-bas ? Et là, je lui explique que s'ils sont là-bas, comme elle dit ou comme ils disent, c'est pour défendre des valeurs qui constituent le socle de notre démocratie et le ciment de la cohésion sociale. Et quand je leur explique que là-bas, il y a des gens qui ne veulent pas que les enfants aillent à l'école, dans un premier temps, ils sont contents. Mais quand après, je leur dis que souvent, les filles, notamment, ne peuvent pas y aller et donc elles vont rester à la maison pour aider maman, s'occuper des frères, des sœurs, faire la cuisine et qu'à 10 ans, elles vont être mariées et qu'à 12 ans, elles sont priées d'avoir un garçon. Là, tout de suite, on voit les engrenages du cerveau qui se mettent en route et là, ils comprennent mieux. C'est ça, pour moi, la transmission.
Alors justement, la transmission, est-ce que vous pourriez me donner des exemples précis de vous, Action ONAC, comment est-ce que vous intervenez auprès des écoles, des collèges, des lycées? Comment faites-vous?
Alors, je dois dire que dans ce département, déjà, j'ai une très grande chance, c'est qu'il existe un réseau magnifique d'associations qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes et aussi une éducation nationale qui est très réceptive. D'abord parce que le directeur académique des services de l'éducation nationale est agrégé d'histoire, donc ça aide. On a un coordonnateur mémoire culture humaniste pour le premier degré, donc les écoles primaires, et également pour le second degré. Donc déjà, j'ai des interlocuteurs. Alors, en termes d'action, c'est évidemment la commémoration des 11 journées nationales. Donc, c'est inciter les jeunes à y venir, mais en expliquant pourquoi. Je dis toujours que quand on était jeunes, nous, au coup de sifflet, on était au pied du monument aux morts. Maintenant, ça, c'est fini. Il faut que les jeunes comprennent et surtout soient acteurs. Donc, en faisant des recherches sur les morts de leur commune, par Internet, etc. Il faut qu'ils fassent des choses. Par exemple, nous avons fait récemment, début mai, avec une école de Bourges, un rallye mémoire dans Bourges sur le thème « Bourges sous l'occupation ». Mais c'est un travail qui a été mené toute l'année scolaire. À la fin du mois, je vais faire une cérémonie pédagogique pour une classe où, en fait, la classe va venir aux écoles militaires de Bourges et les élèves vont doubler les postes. On aura un élève par autorité, des élèves avec les porte-drapeaux, des élèves avec le piquet d'honneur, des élèves pour lever les couleurs, etc. etc. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'essaye de favoriser la rencontre avec les témoins. Parce qu'on a affaire à une génération de zappeurs. Ils sont habitués aux images, mais ils prennent la zapette et hop. Quand ils ont des vraies personnes devant eux qui leur racontent, pas forcément leur guerre, parce que hélas, maintenant, on a de moins en moins de témoins des grands conflits, mais ne serait-ce que leur jeunesse pendant cette période-là, et où ils leur expliquent qu'il n'y avait pas de Nutella, pas de télé, pas non plus de pizza. Là, ils se demandent effectivement s'ils n'ont pas vu les dinosaures. C'est un peu ça, c'est un raccourci, mais voilà. Et en fait, ils partagent des choses qu'ils ont vécues et que ces jeunes qui ont toujours vécu dans une république et une démocratie ne peuvent même pas imaginer être différents de ce qu'ils ont aujourd'hui. Choisir leur métier, choisir les études qu'ils veulent faire, etc.
Est-ce qu'ils ont été spécialement, disons pas motivés, mais dirigés vers l'année 16? Vous savez, c'est le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui a pu se faire au niveau des écoles, madame?
Alors, au niveau des écoles, il y a également une action très importante que l'ONAC accompagne, ce sont les concours. Évidemment, le concours national de la résistance et de la déportation, mais également, qui est tourné vers la Première Guerre mondiale, le concours des petits artistes de la mémoire. Voilà. Et cette année, c'était évidemment, si possible, trouver, identifier un poilu qui aurait combattu, voire qui est décédé à Verdun ou dans la Somme, et donc raconter avec leurs mots, illustrer avec leurs dessins la correspondance qu'aurait pu échanger ce poilu avec sa famille. Et donc, j'ai eu deux écoles qui ont participé cette année, une école à Vierzon, et une école à Chezal-Benoît. Et nous remettons les prix, l'un la semaine prochaine, l'autre début juillet. Ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce que j'entends quelquefois, les jeunes ont une immense appétence envers ces sujets-là. Ils sont très, très demandeurs. La seule chose, c'est qu'effectivement, ils veulent être acteurs et pas spectateurs.
Eh bien, écoutez, merci, madame la directrice, pour ces explications passionnantes sur l'Office national des anciens combattants. Merci à vous, fidèles auditeurs de l'histoire militaire du Cher et du Berry, présenté par Agora Défense dans le cadre de l'émission Le Berry se raconte. Merci. Thank you.